nisée si elle devait être victime d'une disparition forcée, qu'elle en ait été victime de façon directe ou indirecte. Voilà donc pour ce qui concerne la portée, le champ d'application de ces dispositions. On va au-delà de ce que prévoit la Convention et j'insiste à ce sujet. Pour ce qui concerne à présent les personnes qui jouissent des droits prescrits en matière de procédure pénale, oui, la loi prévoit que les victimes puissent elles aussi exercer cet ensemble de droits. Et dans le cas où une victime est décédée ou qu'elle souffre de troubles physiques ou mentaux graves, son époux, les membres de sa famille, frères, sœurs, peuvent exercer ses droits en son lieu et place. Mais c'est une question de principe. Et dans la réalité, dans la pratique de la procédure pénale et des enquêtes pénales, les victimes et leurs proches sont pour nous une cause, une source de vive préoccupation. On s'en préoccupe donc au premier chef en cas de tout au long de la procédure pénale. Le code de procédure pénale énonce donc les droits auxquels ont accès les victimes. Mais nous tenons compte aussi de ces cas où une victime peut avoir un conflit d'intérêts vis-à-vis de son époux, épouse, frère, sœur, enfin vis-à-vis ou alors vis-à-vis de la personne qui l'a kidnappée, qui pourrait être un membre direct de la famille. C'est une éventualité que l'on doit envisager. Il peut y avoir des liens familiaux entre la victime et la personne qui l'a enlevée. On doit donc commencer par s'attacher à s'occuper de la victime. Et c'est d'ailleurs ce que dit la loi. Mais dans la pratique, si la victime le souhaite et si ceci, ou si ceci n'est pas contraire à la volonté de la victime, le ministère public peut choisir de rencontrer les membres de la famille avec la victime pour s'informer de ce qui s'est passé, pour consulter les victimes. Donc ça, c'est une pratique en cours au Japon. En cas de poursuite pénale, la victime, son époux, les membres de sa famille ont accès aux informations relatives à la manière dont le ministère public traite de ce dossier. Même dans le cas où il n'y a pas eu poursuite, où la poursuite n'a pas donné lieu à des condamnations, ou s'il n'y a pas. Et en cas de procès, ils sont également informés. Donc la victime a accès à tout le dossier, à toutes les archives aussi dans le cas où l'affaire n'a pas été poursuivie en justice. Et de surcroît, nous disposons d'un système d'aide aux victimes, de soutien aux victimes. Donc chaque bureau du procureur compte des personnes qui sont là pour aider les victimes, qui les consultent, qui les accompagnent au tribunal, tout au long de la procédure. Et nous avons également ouvert une ligne téléphonique pour les victimes. Et ces victimes peuvent également être invitées à participer au procès, entendre les témoins, la personne accusée, peuvent également donner leur avis à propos de la manière dont plaide le ministère public, peut également se prononcer sur le dossier d'instruction. Et se prononcer sur tout le déroulé du procès. Nous avons donc des mesures de protection assez larges qui bénéficient aux victimes. Je vous remercie. J'aimerais ajouter une remarque. Vous nous avez demandé si, c'est M. Batty qui me l'a demandé, si nous avons l'intention de réviser la procédure. C'est ce que je vous ai expliqué plus tôt. Nous avons une liste assez longue de droits ouverts aux victimes. Et dans la pratique, nous fournissons aux victimes toute l'information et tout le soutien dont elles ont besoin. Si la victime le demande, elle peut rencontrer le procureur accompagné de membres de sa famille, mais selon nous, cela ne répond pas suffisamment à l'esprit de la Convention, mais nous n'avons pourtant pas forcément pas l'intention de réviser la définition. Merci. Pour compléter, je dirais que nous avons également un système qui est géré par l'Agence nationale de police, par la police, et qui est là pour aider financièrement les victimes et leurs familles.